Bonjour et bienvenue dans l'Info, c'est clair. 217 000 contaminations hier, elles ont quadruplé ces contaminations en un mois. En Asie, la Chine et la Corée sont submergées par le Covid avec des taux de mortalité records. L'Info, c'est clair est intitulé « Covid, ça repart ». Nos invités, Richard Anchou, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat de médecine de médecins généralistes MG France. Christine Rousiou, vous êtes professeure émérite de virologie à l'université Paris-Descartes. Vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Et Caroline Tourbe, vous êtes journaliste sciences santé au magazine Le Point. Merci de participer à cette émission en direct. Donc 217 000 contaminations hier, c'est un chiffre record depuis la dernière vague, les chiffres ne cessent d'augmenter, à encore plus 20% d'une semaine sur l'autre. Et du coup, devant les laboratoires, c'est à nouveau l'effervescence. Je vous propose de regarder ces quelques images recueillies par Yaël Benamou.
C'est le retour des files d'attente devant les laboratoires.
Vous avez de la fièvre ?
Non.
Pas de fièvre.
Moi, j'ai de la fièvre.
D'accord. Vous pouvez passer en priorité, s'il vous plaît.
Dans cet établissement, il faut patienter une demi-heure avant de se faire tester. Le taux des contaminations est en hausse depuis plusieurs jours.
Quand on sort notre série de PCR, on a un nuage qui est le nuage des positifs. Et en ce moment, le nuage des positifs est de plus en plus dense et noir.
Alors, Richard Anchou, vous le constatez, vous, les chiffres sont le taux de positivité est en train de repartir dans vos cabinets ?
Alors, le nombre de patients qui toussent, qui mouchent, qui crachent et qui ont des courbatures est en nette augmentation, effectivement. Et après, dans mon cabinet, je suis incapable de déterminer si c'est Omicron dans sa version la plus récente ou si c'est Omicron précédent ou si c'est la grippe.
Est-ce qu'ils se font... Mais, ah, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'ils se font... Il y en a beaucoup
dans mon cabinet,
pas testés, c'est ce que vous voulez dire.
Alors, dans mon cabinet, ce que je demande à tous mes patients qui sont dans cet état, c'est de s'isoler avec le masque, avec la distance et avec toutes les mesures qu'on a apprises de façon consciencieuse depuis 2 ans et de les respecter le plus scrupuleusement possible. Après, les faire tester à un intérêt épidémiologique certain, au plan individuel, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les gens s'isolent. Parce que lorsqu'ils ont été contaminés, s'il y a eu dans la famille quelqu'un qui a été testé positif au sein du clone familial, on sait bien que ça va probablement être Omicron, simplement c'est positif au 2e jour, au 4e jour, au 5e jour. Et donc ça n'a pas, pour moi, au plan de clinique, grand intérêt, puisque tant qu'il est négatif, je lui demande de rester isolé, et le jour où j'apprends qu'il est positif, je continue à lui dire d'être isolé.
Caroline Tourbe, on est du coup complètement perdu là, dans les règles, maintenant il n'y a plus de cas contact, on doit quand même s'isoler, mais au fait, bon, comme il n'y a plus de passe sanitaire, on n'est pas obligé de se faire tester. En fait, chacun fait un petit peu ce qu'il en veut avec ce Covid. Ce qu'on constate, je termine là ma question, c'est que, ne serait-ce qu'à France Télévisions, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont chez eux Covid plus.
Oui, oui. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. On est censé avoir retenu un peu les règles, comme le rappelait le médecin. On est obligé, normalement, par esprit civique, de s'isoler, d'éviter le contact avec les personnes fragiles, de se retester pour savoir quand on est négatif. Ça doit aller de soi. Et évidemment, comme le pass sanitaire n'est plus contrôlé. Enfin, puis de toute façon, le pass sanitaire, ça ne vous indiquait pas si vous étiez positif ou pas. Le pass sanitaire, vous montriez que vous étiez vacciné ou pas. Donc, ça ne changeait rien par rapport au fait de s'isoler, d'apprendre sa décision de s'isoler. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte, peut-être, dans les esprits d'un peu relâchement. On a l'impression que c'est terminé, qu'on en est sorti. Ben, la réalité des chiffres montre que ce n'est pas le cas. On a vu 30%, plus de 30% de positivité pour les tests Covid. Donc, clairement, on est dans une situation où ça remonte. Donc, peut-être que, oui, c'est la piqûre de rappel pour l'isolement.
Alors, on va voir la une du Parisien, professeur Christine Rousiou. Ce qui est incroyable, c'est que cette une de Parisien, c'était hier, le Parisien d'hier. On parlait de 130 000 contaminations jour. Maintenant, on est à 217 000. Et il y a écrit 130 000 cas de Covid par jour, 3 petits points. Et alors, on a l'impression que maintenant, on le prend par-dessus la jambe, ce Covid. Ça veut dire quoi ? C'est quoi, là, on est un peu perdu, d'ailleurs. C'est toujours Omicron, en ce moment, qui est en train de repartir ?
Alors, c'est Omicron 2.
C'est
un sous-lignage de Omicron, c'est-à-dire que dans l'arbre phylogénétique, c'est la même branche qu'Omicron, mais elle se sépare en BA1, BA2 et BA3.
Alors, c'est vrai qu'en janvier, on avait eu
BA1,
voilà, dont on disait il est très contagieux, mais pas très dangereux.
Il est plus contagieux que Delta, et sa dangerosité était estimée pas terrible, pas trop forte, dans le contexte de la France où une grande partie des personnes sont immunisées. Ensuite est apparu.
Alors on va aller en Chine. Ouais,
ensuite est apparu BA2.
BA2, d'accord.
Et là, on s'est rendu compte que la protection immunitaire continuait, mais malgré tout, c'était un virus qui était clairement beaucoup plus infectieux que Omicron, qui lui-même était plus infectieux que Delta.
Donc là, le BA2 est encore plus contagieux que le BA1 qu'on a eu au début de l'année.
Exactement, 30% plus contagieux. Et ça, c'est confirmé par toute l'Europe, Hong Kong, la Chine, partout. Donc il est extrêmement contagieux. Il est assez identique sur Omicron, sur la partie interne, les protéines internes du virus, mais il a 8 mutations dans la spike. Donc c'est dans la protéine d'attachement. Donc c'est un peu un souci. Parce que, à nouveau, les anticorps monoclonaux de traitement marchent moins bien. Mais bon, on a quand même une bonne réponse immunitaire avec les vaccins. On est un petit peu moins bien, mais on est face à un vrai nouveau variant tueur. Et je trouve que quand vous dites les chiffres 130 000, 200 000, on s'y habitue. Moi, je ne m'habitue pas aux 100 morts, plus de 100 morts par jour.
Enfin, 137 morts. C'est 10 fois le nombre de morts sur la route.
Voilà. On s'habitue à ces chiffres. Je trouve ça assez surprenant.
Alors, puisqu'on en est là, ces chiffres, si on les multiplie sur une année, ça fait 36 000 morts. Bah, le cancer, c'est 70 000 morts. Et il y a des gens qui disent, on ne va pas commencer à comparer les maladies.
On ne compare pas, mais quand on dit on est entre 700 et 1 000 morts par semaine,
ouais,
c'est faramineux. Quoi. Donc le risque est là et il faut absolument le faire comprendre. Même si c'est compliqué, on ne va pas reprendre des obligations de masque et autres, mais comme il a été dit, la responsabilité individuelle devient extrêmement forte.
Alors justement, la question du masque, Caroline Tourbe, l'OMS nous reproche d'avoir enlevé le masque
un peu trop tôt, ouais. Ça a été reproché à la France, mais par exemple, on voit que l'épidémie repart également en Italie. Et en Italie, le masque est encore obligatoire, le FFP2 dans certaines situations. Donc il y a des situations qui sont différentes et le masque n'explique pas tout. Le masque, non. C'est un outil très utile, très intéressant pour se protéger, mais comme ça a été dit aussi, Omicron, il est extrêmement contagieux. Donc quand on est très sérieux avec le masque, on diminue énormément ses chances. Son risque d'attraper le Covid, mais on ne l'élimine pas totalement. Ça, je pense aussi que les gens l'ont compris. Le masque, ce n'est pas quelque chose qui va vous protéger totalement. Simplement, ça diminue le risque. Mais comme il est très contagieux, et les fois où on peut enlever son masque, on peut s'exposer à attraper Omicron. Oui.
Alors justement, a-t-on enlevé le masque trop tôt face à cette reprise de l'épidémie? Il y a de plus en plus de Français
qui le remettent
oui. Le masque.
C'est vrai.
Sujet de Simon Ricotier.
Il n'est plus obligatoire, mais dans ce supermarché, rares sont ceux qui y ont renoncé. Le masque est ici largement porté par les clients comme par le personnel.
Il y en a une bonne partie, oui, qui l'ont gardé, par précaution, parce qu'on voit plein de monde par jour, parce que, enfin voilà, il y a multiples raisons, parce qu'on veut protéger nos familles, beaucoup.
Même à l'extérieur, certains le préfèrent encore sur le nez que dans la poche.
J'ai un certain âge et je crois que je veux rester prudente.
Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, je préfère garder le masque. Et puis, je suis un petit peu patraque aussi, donc voilà. Et quand ça ne me gêne pas plus que ça, en fait. Ouais.
Emmanuel Macron s'est dit prêt à rendre le masque à nouveau obligatoire si la situation sanitaire l'exigeait. Mais selon certains épidémiologistes, il ne faut plus attendre. Selon un récent sondage, 7 Français sur 10 continuent de porter le masque au travail, au moins pendant une partie de la journée.
Richard Anjou, c'est vrai qu'on l'a tous dans la poche, hein, mmh. Une preuve. Est-ce qu'on n'est pas on se moquait des Asiatiques qui avaient toujours leur masque quand ils visitaient l'Europe. Est-ce qu'avec cette épidémie, on n'est pas entré dans une société plus hygiéniste? C'est vrai qu'on a tous vu à la télévision ces gouttelettes qu'on projetait quand on parle. Et du coup, on a envie de se protéger, et même dans le métro ou dans le bus, de plus en plus, on met le masque.
Alors, le masque, il a une symbolique et puis il a une réalité d'efficacité. Le masque qu'on tripote, qu'on remet sur le nez, qu'on enlève, un chirurgien de salle d'opération ou un réanimateur vous dirait qu'on est vraiment très transgressif parce que c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Moi, je demande à mes patients qui ont le Covid ou qui ont en tous les cas des symptômes de reprendre des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 et d'arrêter les masques tissus qui sont jolies, qui sont emblématiques, qui sont symboliques, mais qui ne sont pas efficaces. Donc, quand on sait qu'on a une filtration à 90% avec le FFP1, à 95 ou 98% avec le FFP2, c'est quand même mieux que le masque en tissu qui protège à 60%. Donc ça, c'est vraiment le reprendre, mais le reprendre vraiment, pas seulement en effet d'affichage. Après, le masque, il symbolise le fait que je reste à distance, il symbolise le fait que je ne vais pas me tripoter le visage, parce que quand j'ai un masque, j'évite. Et donc, effectivement, ça diminue quand même les sources de contamination.
Ouais. Professeur Ozio, vous voulez... Non.
Oui, je trouve que...
Parce que la question se pose du retour du masque à l'école, hein, notamment chez les enfants.
Ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que le problème pour les enfants, c'est difficile hein, à tolérer tout, mais vraiment leur redire que le porter sous le nez, ça sert à rien, que le porter très aéré, très lâche, ça sert à rien. Donc, c'est non seulement mettre le masque, mais le mettre correctement. Alors, pour l'école, c'est compliqué parce que, voilà, ils sont des clusters, il y en a tous les jours, tout le temps, dans toutes les classes. Et donc, pour les directrices d'école, les mesures sont un peu compliqué. C'est vrai que les enfants font pas forcément des formes très graves, mais il y a quand même des enfants avec Omicron 2 qui le ramènent à la maison. Il y a un absentéisme quand même terrible actuellement dans l'industrie. Hein. Il y a des endroits où il y a plus de 20% d'absence et c'est pas rien d'attraper ce BA2 même avec une triple vaccination.
Chiffre de l'Association nationale des DRH, l'absentéisme est de nouveau en hausse. Ces chiffres
absolument.
Tout avec des taux moyens de 10 à 15% par jour. L'an dernier, l'IFOP a constaté que 44% des absentéismes étaient liés au Covid.
Oui.
Caroline Tourbe, un impact économique.
Évidemment, on a un impact économique. Et on a beaucoup parlé du masque en entreprise aussi, mais il y a vraiment un point qui est très important, c'est l'aération, dont on pourra reparler. Ouais. Et typiquement en entreprise, dans les grands open space, les fenêtres ne s'ouvrent pas toujours. Ça n'est pas toujours très simple d'aérer. Dans les écoles, c'est pareil. Beaucoup d'écoles n'ont plus de fenêtres qui s'ouvrent en grand. C'était pour des raisons de sécurité. Donc, l'aération, ça doit être un réflexe qui doit revenir en force à tout moment de la journée et qui n'est pas forcément bien vu, y compris dans les entreprises. Se lever en demandant à aérer son bureau, ce n'est pas encore devenu un réflexe tant que ça.
Emmanuel Macron, si les choses devaient se dégrader, le président que je suis prendrait ses responsabilités pour protéger. Professeur Christine Rosiou, est-ce qu'il pourrait y avoir un mauvais scénario pour cet été ?
Oh non, j'ai l'habitude de dire que je pense que le printemps va nous sortir de là. Il commence juste, donc j'espère que j'aurai raison d'ici 3 mois. Mais c'est sûr qu'on a toujours le risque de nouveaux variants.
C'est ce que j'allais dire.
Alors, le Delta Micron, le virus XD, n'a pas l'air de prendre. Et comme on est assez immunisé contre Delta et on commence à l'être contre Omicron, on se dit que au moins chez nous, le risque est moindre. La situation épidémiologique est quand même variable d'un pays à l'autre, suivant les vaccins qui ont été utilisés, ouais. Le calendrier vaccinal. On va en venir à la Chine, Hong Kong, etc. Les situations sont assez différentes. Mais quand on voit le Danemark, ils avaient beaucoup vacciné, ils ont laissé circuler le virus, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'infections. Et bon, ça induit quand même une certaine immunité qui risque de protéger des futurs variants. Et donc, on espère la même chose pour nous.
Mais des futurs variants, voilà, Caroline Tourbe, que nous enseigne l'histoire des épidémies, hein ? L'humanité n'en est pas à sa première épidémie. Des variants apparaissent, ils mutent, ça revient par vagues. Et le variant est de plus en plus contagieux et de moins en moins létal. C'est une happy end, si je veux dire, à la face d'un gros rhume.
Il y a eu des happy ends, mais il n'y a pas forcément un happy end à chaque fois. En fait, on ne sait pas du tout ce qui va sortir du chapeau génétique. C'est-à-dire que les variants, les prochains variants seront... On peut estimer qu'ils seront plus contagieux. Ça leur donne clairement Omicron s'il a pu faire ce qu'il a fait actuellement, s'il arrive à se répandre, c'est parce qu'il est plus contagieux. Il a une capacité à passer d'humain à humain qui est augmentée. Mais sur sa dangerosité en quelque sorte, ça on peut pas le prédire. On aimerait que ce soit un happy end à coup sûr, mais ça c'est sur de l'histoire longue aussi. Il faut toujours rappeler. On a l'impression que le Covid ça fait des décennies parce que ça nous semble long ce temps-là, mais ça fait 2 ans. 2 ans et demi, que l'espèce humaine est vraiment au contact de ce virus. Donc, en réalité, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Les prochains variants, on ne peut pas estimer, on peut pas dire à coup sûr qu'ils seront moins dangereux, non ?
Christine, professeur Rosiou, que nous enseigne les anciennes épidémies, alors justement, c'est quoi la suite là, de l'histoire ?
Alors, c'est vrai qu'au début de l'épidémie, un certain nombre de virologues disaient « une épidémie, ça s'éteint ».
Bah oui.
Et donc... Voilà, là, en l'occurrence, ce sont les coronavirus qu'on connaissait assez mal. La société a changé le contact avec les réserves animales, de réserves de virus animaux. On les avait complètement oubliés. On n'était plus très en contact avec les vétérinaires. Et quand on voit maintenant, quand on cherche tous ces virus, on en trouve énormément. Donc des possibilités de contamination avec cette proximité animale maintenant qui revient. Regardez cette épidémie d'Omicron au Canada et aux États-Unis chez les cervidés. Les élevages de cerfs et les cerfs sauvages s'approchent des maisons, ils sont infectés par Omicron, il y a une grosse épidémie d'Omicron. Donc on a des sources de virus qu'on ne maîtrise pas.
Est-ce qu'on peut nous annoncer le mois prochain, tiens, il y a un nouveau variant qui apparaît, qui est beaucoup plus dangereux? Le Delta était dangereux en décembre dernier, oui. Il était très mortel.
Je pense que, personnellement, moi je ne peux rien dire, je pense que j'espère qu'on aura un peu plus d'effet de la saisonnalité. Ça, c'est possible, mais on voit que cet effet de saisonnalité marche pas beaucoup sur le virus grippal.
D'accord.
Hein, c'est d'habitude la grippe, c'est vraiment. Mais on a une petite vague de froid qui revient là, qui va le favoriser.
Docteur Richard Anchou, quand on a le Omicron BA2, là, c'est celui qui circule en France, qui est ultra majoritaire. Comment ça se passe? C'est un gros rhume ou bien non? Il y a toujours des admissions à l'hôpital, il faut le rappeler.
Alors, en médecine de ville, franchement, c'est un virus qui est gentil. Mes patients les plus fragiles ont eu 3 doses voire 4 doses de vaccin. La vague Omicron a contaminé massivement à Paris. On a eu je pense que 50% au minimum de la population a été en contact avec Omicron, qui probablement aujourd'hui protège partiellement, parce qu'il y a des gens qui ont eu en janvier-février et qui sont de nouveau positif.
On peut avoir le BA1 en janvier, oui. Et maintenant on a le BA2.
Le BA2, simplement, je n'ai eu aucun cas grave depuis le mois de février-mars. Je n'ai pas eu de cas grave. En revanche, j'ai eu des tas de patients qui ont été positifs. Donc, moi, je suis cliniquement optimiste. Lorsque quelqu'un me téléphone en me disant « je suis positif », je ne suis pas inquiet, même s'il est âgé, même s'il a des facteurs de comorbidité. Et d'ailleurs, quand les gens me demandent « est-ce que je dois me faire ma 4e dose ?» puisque c'est une question qui se pose, lorsqu'ils ont 65 ans, mais pas 80, et qu'ils n'ont pas de facteurs très particuliers d'immunodépression ou de fragilité, je leur dis, écoutez, on va attendre, parce que là, j'ai vraiment l'impression que la population que je soigne est globalement compétente pour répondre à ce virus-là et n'est pas en danger.
Alors justement, la 4e dose, elle est désormais recommandée pour les plus de 80 ans. Oui. Se font-ils vacciner? Éléments de réponse et reportage avec Pascal Varnier et Éric Jacquet.
Bonjour Victor.
Bonjour monsieur.
Dès l'annonce du Premier ministre, Bernard, âgé de 82 ans, s'est inscrit immédiatement pour une nouvelle dose de rappel.
Vous venez aujourd'hui donc pour la 4e injection, le rappel. C'est ça. D'accord. Pas de réaction?
Aucune.
Un entretien de routine avec le médecin, comme pour les injections précédentes. Tous les voyants sont au vert. Bernard peut se faire vacciner.
Il n'y a pas de contre-indication à le faire aujourd'hui.
Ok, super. Vous avez une préférence?
Depuis lundi, le centre de vaccination Ancy au cœur de Nice ne désemplit pas. Une cinquantaine d'octogénaires et plus chaque jour reçoivent leur 4e injection. Pour Bernard, c'est fait.
Ça va?
Parfait.
Je suis un fervent partisan des vaccins.
Et là, pour la 4e dose, pas d'inquiétude particulière?
Aucune.
Aucune inquiétude non plus pour Jean-Louis, qui s'est inscrit lui aussi dans les premiers. Il veut continuer à se protéger et préserver ses proches.
Aucun problème, on peut m'en faire autant qu'on veut. Moi, je me ferai toujours vacciner. C'est pour ça que je voulais faire, être sûr d'être protégé.
Voilà.
Le centre de vaccination Ancy reçoit ce rendez-vous. Seule condition, la 4e injection doit être faite au moins 3 mois après le dernier appel.
Richard Anchou, alors est-ce qu'il y a une appétence pour cette 4e dose chez vos patients de plus de 80 ans et les plus fragiles hein.
Alors elle est très variable. Elle est très variable. L'annonce a été faite de façon un peu cavalière par nos autorités, comme depuis le début de cette crise.
C'est-à-dire
qu'on avait décidé, en tous les cas à Paris, de fermer tous les centres de vaccination. Et le jour même où on a décidé, en accord avec l'ARS, en accord avec l'assurance maladie, et la mairie centrale de fermer tous les centres de vaccination, le Premier ministre a annoncé qu'on faisait la quatrième dose. C'est un peu compliqué à comprendre parce que ces centres de vaccination étaient quand même extrêmement utiles pour centraliser les doses de vaccins dont on avait besoin, que les pharmaciens d'officine ont parfois du mal à avoir au moment où on les demande. Donc les gens ont entendu, et certains se sont manifestés. Les plus de 65 ans ont entendu quelques jours après que la Haute Autorité de Santé avait conseillé de le faire, puis le décret n'est pas paru, et donc nous n'avons pas la capacité de le faire. En tous les cas, c'est une décision individuelle du médecin et de son patient, et il n'y a aucune incitation réelle à vacciner les plus de 65 ans. Donc on est dans un flou. À la grande époque de vaccins, je faisais une trentaine de vaccins par semaine à mon cabinet. Aujourd'hui, je fais un flacon de 7 doses tous les 15 jours.
Comment donc on a beaucoup de réticence, notamment chez les plus de 80 ans, on a tous été traumatisés par ce Covid. On a déjà eu 3 doses, on va en faire une quatrième, c'est pas le bout du monde, il me semble.
Alors, les plus de 80 ans ont aussi attrapé Omicron, parce qu'ils ont baissé la garde vers le mois de février et mars. Et donc, ils avaient des petits-enfants qu'ils ont craqués. Ils ont fini par les embrasser, les prendre dans les bras et ils se sont contaminés. Ils ont vu que cette contamination Omicron à 80 ans ne les avait pas déstabilisés de façon importante. Eux sont maintenant non éligibles puisqu'ils ont eu leurs 3 doses et une contamination sauvage. Donc, l'angoisse générale, notre virologue nous dit, on n'est pas à l'abri d'une mutation et d'un cas grave.
L'angoisse générale a baissé.
Pourrait venir. L'angoisse générale, elle a baissé.
Professeur Christine Rousiou, l'idée de cette quatrième dose, c'est l'immunité descend avec le temps. On devient tous des professionnels de la virologie, un petit peu, désolé pour vous. Mais on a appris que l'immunité baissait avec le temps. Donc on rebooste son système immunitaire. C'est bien cela, l'objectif de la quatrième dose ?
C'est exactement ça. C'est vrai que le plus grand boost, c'est entre la deuxième dose et la troisième dose. Les deux premières doses font une immunité relativement modeste. La troisième dose booste vraiment. Donc la quatrième dose est considérée comme un deuxième rappel. L'immunité contre les coronavirus est assez spéciale et l'immunité cellulaire met un certain temps à s'installer. Et c'est vrai que ce rappel sensibilise encore une nouvelle population lymphocytaire. Donc on pense qu'on est relativement efficace. Alors il commence à sortir des articles, notamment des Israéliens, sur l'efficacité vaccinale de cette quatrième dose. Moi, je pense que c'est presque un petit peu tôt. Je pense qu'il faut effectivement protéger ceux qui ont une immunité qui a tendance à diminuer, à savoir les personnes âgées. 65 ans, sans pathologie, on peut le discuter. Il y a d'autres pays qui discutent à 50. Enfin, c'est discutable. Je pense qu'il y a la science et puis il y a ce qui a été dit, c'est-à-dire la politique, comment on met en place, comment on relance, comment on ne gâche pas. Parce que même, il faut quand même dire les choses. Il y a eu quand même des millions et des millions de doses de vaccins qui ont été gâchées, perdues, qui ont été mis à la poubelle et détruits. Et ça, vraiment, c'est pas acceptable. Donc, on voit qu'au niveau mondial et international, les choses se sont pas bien organisées, pas bien passées. Et c'est inacceptable de se dire que des millions et des millions de doses de vaccins ont été détruites.
Caroline Tourbe, quel est notre rapport à cette vaccination ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des clients, d'ailleurs, pour un nouveau rappel ? Parce que c'est vous qui me faisiez remarquer, il y a un an, on n'avait pas de vaccin.
Oui, bien sûr.
Et donc, on a beaucoup critiqué ces vaccins, mais il y en a beaucoup qui disent qu'il nous a quand même complètement tiré d'affaire.
Bien sûr, complètement. Bien sûr. Il y a un an, on faisait des émissions, on écrivait des articles qui nous se demandaient si on aurait des vaccins pour tout le monde. Ouais. Et quand est-ce qu'on pourrait avoir des vaccins ? En dehors des gens qui étaient fragiles ou âgés, la population se demandait si un jour elle pourrait être vaccinée. Ben, c'est le cas, on a pu être vaccinés. Mais comme ça a été dit, il y a eu beaucoup de commandes qui ont été faites. Des vaccins qui ont été jetés parce que périmés. Et là, on se retrouve dans une situation où on fait la fine bouche face à une quatrième dose pour certaines personnes qui en auraient besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire de timing. Clairement, ce qui a été bien expliqué, c'est que sur l'immunité, ça descend et on ne sait pas à quel moment ça s'arrête de descendre aussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu un moment où on observe. Est-ce que ça va être nécessaire pour tout le monde une quatrième dose ? Peut-être pas. Pour des gens jeunes en bonne santé, au fond, on va peut-être arriver à un seuil qui sera suffisant pour se défendre contre des formes virulentes, des formes avec des symptômes
symptômes très forts du Covid. Donc on va peut-être pas avoir besoin de quatrième dose pour tout le monde. Inversement, à partir de 50 ans, le seuil va être trop bas, donc ça peut être intéressant de proposer une quatrième dose. Donc c'est un nouveau moment clé par rapport à l'histoire de la vaccination. Il y a un an, il n'y en avait pas pour tout le monde. Maintenant, on sait qu'on aura les doses, on sait qu'on pourra vacciner, on sait qu'on peut s'organiser assez rapidement, faire des centres de vaccination, vacciner en chaîne. Il faut se relancer. C'est vrai que c'est pas simple, mais on sait qu'on peut le faire. Et donc là, il va falloir voir si cette quatrième dose est intéressante pour tout le monde ou pas. Aux États-Unis, la FDA a proposé la quatrième dose pour tous les plus de 50 ans.
Voilà. Ah oui.
Donc ça va être possible. Après, ils sont beaucoup moins bien vaccinés que nous. Ils ont des facteurs de risque, notamment obésité, qui sont pas les mêmes chez les adultes. Donc c'est aussi une recommandation qui correspond à la population.
Alors si on rechigne à se faire vacciner, c'est parce que la peur face à la maladie a baissé. Pourtant, il faut savoir que ce même Omicron, c'est le même, hein. Il circule également en Asie et il fait des ravages. Mmh. Hong Kong a connu un taux de mortalité 3 fois supérieur au pic que nous avons connu de mars dernier. On regarde justement un reportage à Hong Kong d'Arnaud Miguet et de Gaël Caron.
Hong Kong, submergé par la cinquième vague la plus violente. Dans les hôpitaux débordés, les malades souvent âgés et peu vaccinés attendent sur ces lits médicalisés en plein air. Le taux de mortalité est aujourd'hui le plus élevé au monde. Il n'y a pas assez de cercueils.
Il y a beaucoup de morts dues au Covid-19 à Hong Kong en ce moment.
Les autorités, Carrie Lam en tête, chef de l'exécutif, se sont laissées déborder par le variant Omicron. Des chercheurs hongkongais estiment que la moitié des 7 500 000 habitants a contracté le virus lors de cette dernière épidémie. Alors on teste en nombre, on trace. Et on fait du porte-à-porte en combinaison de protection pour faire la chasse aux malades.
Est-ce que quelqu'un chez vous est testé positif au Covid ?
Non.
Hôpitaux de campagne construits à la hâte avec l'aide de Pékin, venu à la rescousse. Tout comme ces centres de quarantaine en préfabriqués. Politique zéro Covid oblige, tout malade doit être isolé comme Madame Lou, même si elle n'a que de légers symptômes.
Et voici les toilettes, salle de douche.
14 jours d'enfermement, seul contact avec l'extérieur. Ses repas déposés devant sa porte et une télé. Hong Kong et ses plages étonnamment vides. Les rassemblements de plus de 2 personnes interdits, la plupart des commerces fermés, tout comme les écoles. Pas de confinement dans cette ville la plus densément peuplée au monde, mais un ras-le-bol général. Alors cette famille française s'interroge.
32 ans que je suis à Hong Kong, vous m'auriez demandé il y a 3 ans si j'envisageais de partir, je vous aurais dit non, c'était impensable. Aujourd'hui, vu les conditions, c'est quelque chose que j'étudie avec mon épouse très sérieusement.
Cette cinquième vague provoque un exode massif. Plus de 100 000 personnes hongkongais ou résidents étrangers auraient fui le chaos Omicron et ses restrictions depuis le mois de février.
Et la ville de Shanghai également est submergée. Elle vient d'annoncer un reconfinement de la moitié de la ville. Regardez du coup, on va voir les images des supermarchés de Shanghai qui ont été pris d'assaut parce qu'évidemment, les habitants se disent ça recommence, on va être enfermés chez nous. Professeur Cristino Ruzio, vous confirmez, c'est pourtant le même virus dont on vient de parler avec Bonomi ici, c'est le même virus qui tue par
milliers. Oui, en fait,
la même souche.
On parle assez mal de Omicron. C'est-à-dire que Omicron n'a pas trop de pathogénicité dans un contexte où la population est immunisée et vaccinée. Il se trouve qu'en Chine, la politique de zéro Covid a finalement freiné énormément la vaccination, y compris chez les plus de 80 ans. Et donc, ils se retrouvent avec une population de l'ordre de 30 à 40% seulement des 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Donc, ils sont en train de redoubler de vitesse pour vacciner. Ils se rendent compte que la population se dit, il n'y a pas de virus, donc c'est pas la peine qu'on se vaccine. Et en plus, on nous isole dès qu'il y a quelque chose. Donc, cette politique de zéro Covid est compliquée à remettre en cause. Parce que on voit bien qu'elle n'a pas du tout protégé la population et que finalement la politique européenne et occidentale a sans doute laissé un peu de virus circuler. On a le droit de circuler avec des masques, on a le droit d'aller dans les magasins, etc. Alors qu'eux ont une interdiction vraiment trop forte. Finalement, il y a sans doute un niveau intermédiaire. Et la circulation des différents virus a sans doute quand même pas mal immunisé notre population. Là, il se trouve que BA2 est un virus tueur, au moins aussi tueur que Delta, plus tueur qu'Omicron, et la preuve, c'est Hong Kong. Enfin, ils ont une taux de mortalité. Donc, en l'absence.
2,5 fois supérieur au pic que nous avons connu en mars 2020.
Donc, la létalité de ce virus est liée à la fois au virus et à la réceptivité de la population générale.
Caroline Tourbe, oui. Quel retournement.
C'est pas pareil que la virulence. Ouais,
bien sûr. Quel retournement de situation. Là, le Figaro titre échec de la stratégie chinoise. Et on a l'air de dire, bah, nous, on s'en sort bien. Il y a un an, les articles étaient renversés.
Évidemment.
Complètement.
C'était échec de l'Europe et la Chine, le modèle.
Mais si vous voulez, la politique zéro Covid, il y a deux moments dans la politique zéro Covid. Il y a la politique zéro Covid avant qu'on ait des vaccins. Et elle peut s'entendre à ce moment-là, quand l'Australie, la Nouvelle-Zélande se mettent sous cloche, décident qu'elles ne veulent pas de cas de Covid chez elles, qu'elles ferment les frontières, que la Chine et d'autres pays asiatiques font ce choix-là. Ils n'ont pas les vagues, les tsunamis que nous, on a pu avoir au tout début. Et il n'y a pas de vaccin. Puis le vaccin arrive. Et clairement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, au début, ont voulu ouvrir les frontières. Puis ils se sont aperçus que, comme ça a été expliqué, leur population n'était pas très vaccinée. Et que donc, ce n'était pas possible. Donc la deuxième partie du zéro Covid, quand on sort du zéro Covid, on vaccine massivement sa population et les personnes fragiles en priorité. Ce qui n'est pas le cas en Chine, puisqu'ils ont d'abord vacciné les personnes jeunes, celles qui doivent aller travailler.
Pourquoi ?
Le choix, c'était ça. C'était
l'économie.
De faciliter l'économie.
On a vacciné les jeunes pour qu'ils puissent aller travailler en usine et on a laissé les vieux, les seniors, comme on dit, non vaccinés.
C'était le choix. C'était le choix. C'était de sauver l'économie, faire tourner l'économie, moins vacciner les plus âgés. En Chine, c'est ce qui a été choisi. Et puis, ça a été fait avec un vaccin qui est moins efficace. Donc, ils sont mal vaccinés avec les vaccins chinois dont on sait qu'ils sont moins efficaces que les vaccins ARN que nous avons eus. Mais en Australie, en Nouvelle-Zélande, la politique zéro Covid, au final, elle a fonctionné puisqu'ils ont fini par être bien vaccinés, réouvrir un peu leurs frontières. C'est pas parfait. Eux aussi, ils vont avoir des vagues qui vont arriver. Le virus n'a pas circulé, donc ils n'ont pas une immunité aussi forte que celle qu'on peut avoir en Europe où on a été confronté au virus et à des vagues précédentes. Mais enfin, c'est vraiment deux histoires zéro Covid, deux moments. Et là, la Chine, elle est coincée parce que, en effet, si elle ouvrait massivement ses frontières qu'elle laissait courir, il n'y a pas une protection vaccinale suffisante pour affronter le virus. C'est bien expliqué. Ce virus-là, en fait, il est le même pour tous.
Elle est un peu dans notre situation, il y a deux ans, quoi.
C'est un peu ça. En tout cas, pas naïve, à ce moment-là, parce qu'il y a quand même.
Il y a un outil qui est le vaccin.
Voilà.
C'est pas la même chose. C'est plus méchant.
Alors, le virus est très contagieux. C'était très bien expliqué. Le virus, il est toujours le même. C'est juste qu'il vient s'inscrire dans un paysage qui n'est pas exactement le même, voire même pas du tout le même. En Chine, ce n'est pas du tout comme chez nous.
Richard Hanchou, on a quand même un pouvoir politique chinois, je dis exprès politique, qui s'entête dans la politique zéro Covid, alors qu'on voit bien que la Nouvelle-Zélande évolue. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu, il n'y a pas un peu d'idéologie sanitaire ? Est-ce qu'au fond, les démocraties, allez, pour aller faire un peu de politique sanitaire, ne sont pas plus agiles et plus transparentes dans le traitement, et moins idéologue dans le traitement de cette épidémie que ne peuvent l'être.
D'abord, je suis très heureux d'habiter en France et pas en Chine, mais ça, c'est autre chose. Oui, je pense qu'on a agi, on a tâtonné, on a beaucoup tâtonné, mais on a été sauvés d'abord par la responsabilisation des populations qui ont bien joué le jeu, et puis on a été sauvés par ces vaccins ARN dont les gens avaient peur et dont on a bien vu l'innocuité et la merveilleuse efficacité. Je pense que si les Chinois avaient la sagesse de prendre les vaccins ARN aujourd'hui, ils s'en sortiraient beaucoup
mieux. Parce que Sinovac, il ne marche pas tellement.
Et vous voyez bien à l'épreuve des faits que cette vague les submerge totalement alors qu'ils sont quand même un peu. Où ils ont 60% de la population qui est vaccinée. En tous les cas, le Sinovac, de toute évidence, par l'expérience, marche moins bien. On nous avait reproché au début de ne pas prendre des vaccins chinois, russes. On disait, mais ils ne nous donnent pas les preuves de leur efficacité. Ils ne nous ont pas donné les tests qui ont été faits pour qu'on puisse juger. On disait, mais vous devriez les prendre, c'est beaucoup mieux. Non, nous avons des procédés et des validations dans l'Occident, en France, aux États-Unis, en Europe, qui sont éprouvés, qui sont efficaces. J'aurais juste dire, sur les vaccins, il y a 8 jours, j'avais ouvert 2 flacons de Pfizer pour 14 personnes. Il y en a 5 qui ne sont pas venus quand même. Ah.
Donc, vous les rappelez derrière, vous les sermonnez un peu ou bien...
Je les rappelle, je les sermonne, mais ça va à la poubelle quand même. Parce qu'une fois que mes doses sont préparées, c'est 6 heures pour qu'elles soient détruites.
Professeur Christine Rousio, on va voir des images. C'est à Shanghai, des box. On a vu à Hong Kong des leaders. Voilà. Ils en sont là, les Chinois. Ça vous inspire quoi ? Ça vous inspire que nous, on dit, bon, cet été, il n'y a plus de risque. Finalement, ils sont au début finalement de cette épidémie. S'ils ne trouvent pas un meilleur vaccin et s'ils
non, ça
m'inspire dans le zéro Covid.
Ça m'inspire le fait que on peut encore s'armer contre d'éventuels nouveaux variants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on poursuive notre politique vaccinale. Qu'on essaye de convaincre un peu plus les antivax et ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que là, eux, ils sont vraiment à risque de mortalité, exactement comme les Chinois, c'est-à-dire non vaccinés avec face à un virus tueur. Il faut rappeler à ceux qui ont eu que deux doses que non,
l'épidémie, leur immunité va diminuer.
Leur immunité est trop basse et qu'il est vraiment nécessaire qu'ils aient une troisième dose. Et là, il y a pas mal de jeunes qui sont passés un petit peu à côté. Et puis, au gouvernement d'être vigilant sur la nécessité ou pas de cette quatrième dose. Parce qu'en renforçant cette vaccination, comme il a été dit, clairement, les vaccins ARN sont clairement de loin les meilleurs.
Et prometteurs pour la suite face à d'autres maladies. On sait que cette technologie va être maintenant utilisée dans le sida ou contre certains cancers même, non ?
C'est surtout dans le cancer qu'il y a pour le moment des résultats assez éprouvants, mais on a d'autres infections virales plus simples que l'infection à VIH, plus simples.
C'est toujours le VIH, dans les crises réglé qu'on progresse, c'est incroyable. Voilà. Alors, vous le disiez, ce virus, il est toujours tueur, il est toujours là et il empoisonne toujours la vie de notamment 300 000 Français qui sont immunodéprimés et qui doivent continuer à se méfier de ce virus comme de la peste, hein, j'allais dire, au sens comme au figuré. Voyez ce sujet, la vie quotidienne d'un immunodéprimé, Frédéric Prabono.
Le plaisir de faire son marché, de retrouver ses commerçants et les bons produits locaux, un plaisir toujours interdit pour Laurent Di Meglio. Avec un système immunitaire trop faible, le Covid risquerait d'être mortel.
Voilà, quand on est immunodéprimé et donc fragile, on essaye d'aller le moins possible dans les gens où il y a du monde. Et le marché, voilà, le marché de Niort où j'allais tous les samedis matins avant le premier confinement, j'y vais plus ou quasiment plus en fait.
La vie de ce juriste a basculé avec le Covid. Plus de dîners entre copains, plus de magasins, plus de restaurants ni de spectacles. Télétravail pour lui et sa femme et masque systématique sauf seul à l'extérieur, même parfois à la maison.
Je le mets dès que les enfants reviennent. Voilà, les enfants qui sont étudiants, qui sortent naturellement quand ils reviennent à la maison, ils s'astreignent au masque et moi aussi. Donc c'est une vie familiale un peu contraignante.
Dans sa ville de Niort, il ne s'autorise que les terrasses. S'il attrape le Covid, son risque de forme grave et de décès est plus de 30 fois supérieur au reste de la population.
On se dit la liberté commence à revenir pour tout le monde, sauf pour les 300 000 personnes qui sont immunodéprimées et qui doivent encore rester confinées pour un temps indéfini. C'est ça qui est le plus difficile à admettre, en fait.
Richard, docteur Anshu, dans votre patientèle, vous me disiez à l'instant, vous avez des personnes dans le cas de...
Alors, j'ai des greffés du rein.
Mmh.
Et les gens qui sont greffés sont sous immunosuppresseurs pour pouvoir accepter ce greffon qui ne leur appartenait pas. Et le fait d'avoir une très bonne immunodépression pour pouvoir accepter son greffon les rend totalement incompétents à fabriquer de l'immunité avec les vaccins. Et j'ai malheureusement des patients qui ont eu 2, 3, 4 doses, ont fait les dosages d'immunité et on s'aperçoit qu'ils ont toujours une immunité qui est quasiment inexistante.
Donc c'est confinement permanent pour eux.
C'est prudence permanente, mais je dirais pas seulement avec Omicron, malheureusement pour eux, avec toutes les épidémies saisonnières aussi. Et donc oui, ils doivent rester extrêmement vigilants, tous les immunodéprimés, les gens qui sont actuellement en chimiothérapie et qui ont pour les mêmes raisons des défenses qui sont totalement abolies, les gens à qui on fait des greffes de moelle, tous ces gens-là doivent rester extrêmement prudents et on doit leur entourage, ce que disait ce monsieur, les enfants quand ils viennent à la maison, eh ben, c'est eux aussi qui doivent porter le masque et qui doivent garder la distance. C'est très douloureux, mais il faut le faire.
Oui, professeur Ozio.
Je pense que là aussi, il faut élargir la vaccination à ces enfants, tous ceux qui sont à proximité des immunodéprimés. Je pense que voilà, ça aide cette vie familiale. C'est absolument indispensable de le rappeler et de rappeler aux parents qu'on peut protéger l'environnement familial et que la vaccination chez l'enfant est tout à fait efficace et importante.
La vaccination, on a beaucoup parlé des antivax. Est-ce que cette épidémie qui a été vaincue par le vaccin, est-ce qu'elle a changé finalement notre regard sur la vaccination? Est-ce que, docteur Anshu, vous avez du coup des patients qui disaient bah, « tiens, je vais me faire vacciner contre la grippe ». Et puis tiens, d'ailleurs, je vous remercie. Au fond, on est sorti d'une épreuve et on vous a côtoyé pendant 2 années. Est-ce que vous trouvez que le regard de la population en général, de votre patientèle, des journalistes, sur votre profession a changé?
Ah, celle des journalistes, bien sûr.
Nous ah bah on devient tous des experts.
Non, la population s'est raidie dans ses positions, je trouve. Ceux qui étaient réticents ont trouvé des arguments sur les réseaux et en fréquentant des gens qui pensent tous comme eux, qu'ils ont bien raison de penser comme ça. Et les pros, enfin les gens qui ont une attitude ouverte par rapport au vaccin sont convaincus. Ce que j'espère, c'est que à la campagne de vaccination grippe de l'automne prochain, on pourra avoir en même temps des monodoses d'Omicron, de vaccin. Et qui nous permettra là vraiment, et je suis sûr que tous les gens fragiles et tous les gens éligibles viendront se faire vacciner.
Professeur Ouzio, vous êtes virologue, vous ne pensiez pas un jour devoir parler autant de votre spécialité dans les grands médias, être autant questionné, j'imagine, par votre entourage, dans les dîners, dans les déjeuners de famille, le regard aussi sur votre profession.
Non, c'est vrai, je viens du monde du VIH, et c'est vrai que j'ai vécu cette extraordinaire épopée de la découverte du virus, et malheureusement du développement de toute cette maladie dans le monde. Donc c'est vrai que j'ai, en tant que virologue, je dois avouer qu'au moment où je me suis mise à la retraite, je pensais
tailler vos rosiers,
changer et tailler mes rosiers.
Vous n'avez jamais été
autant sollicité. Et voilà. Et du coup, j'ai avec finalement beaucoup de passion, autant de passion que pour le VIH, beaucoup de plaisir à participer à l'information et à lire tous les jours, à essayer tous les jours de passer des messages. Mais c'est vrai que je suis encore choquée par certains messages de certains collègues qui disent « les tests, ça ne sert à rien, le masque, ça ne sert à rien ». Tout ça, c'est difficile pour nous de lutter contre un environnement anti-vax qui malheureusement sévit largement sur les réseaux sociaux.
Caroline Tourbe, j'imagine que pour vous, ça a dû être aussi une période hors norme, hein, ces 2 années d'épidémie, quand on est journaliste science-santé. Ça a été quoi le plus difficile durant ces 2 années? Ça a été d'expliquer des choses compliquées simplement, le R0, de tous nous faire des experts en... Moi, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas très bien ce que c'était que la réanimation. Bon, bah maintenant, on sait très bien que quand on vous annonce que un de vos proches va en réanimation, c'est pas bon.
Non. Bah, le plus difficile, ça a été, moi, plutôt que d'expliquer des choses compliquées, c'est un peu ce que moi j'avais l'habitude de faire, parce que j'étais dans des rubriques ou dans des journaux qui parlaient de science, qui parlaient de santé. Donc j'avais l'habitude de ça. Ce qui a été très différent, c'est à quel point tout s'est retrouvé justement en première ligne, en première page.
Vous faisiez la une,
si on faisait la une en permanence. Et à quel point il y a eu une avalanche d'informations. Et de cette avalanche d'informations, ou plus exactement de cette avalanche de communication, de données, à quel point le travail du journaliste, qui était donc de vérifier, d'affiner les choses, de prendre des avis, des contre-avis, à quel point ce travail-là, dans une urgence, pareil, une urgence sanitaire, avec une demande du public, à quel point c'était compliqué d'essayer de le faire bien, d'essayer donc de faire passer de l'information et pas de la désinformation, courir après les désinformations aussi. Enfin, c'était une sorte de course permanente. Ça, c'était difficile, mais c'était exigeant, mais c'était aussi, c'est le cœur du travail des journalistes, scientifiques ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment ça, c'était passionnant. Ouais. C'était
mais la grande surprise, c'est que pour nous qui ne connaissions rien, la science, c'était carré. C'était vrai ou faux. Un exercice de maths, on a vrai ou bon. On s'est rendu compte que là, on pouvait avoir des opinions, que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux, qu'on pouvait avoir une avalanche d'insultes sur les réseaux sociaux parce qu'on disait une banalité 2 plus 2 égale 4. Enfin, je veux dire, parce qu'on affirmait quelque chose, on répétait ce que disaient les scientifiques.
On a vu les coulisses de la médecine ou de la science et qui sont faites par des humains, c'est-à-dire qu'il y a des tas de formes de caractères différents parmi les scientifiques et parmi les médecins. C'est normal, ça s'exprime. La plupart du temps, ça n'intéressait personne, c'était pas en première page. Là, ça a été en première page et de quelle façon. Mais clairement, il y a une différence entre ces gens qui font la science et ce qu'est la science et ce qu'est une méthode scientifique. scientifique. La méthode scientifique, c'est faire des hypothèses, faire en sorte de trouver des arguments, de vérifier ces hypothèses. Elles peuvent être très vérifiées, un peu moins vérifiées. Elles peuvent être aussi parfois, elles peuvent tomber parce qu'on a trouvé d'autres formes de démonstration. Donc la méthode scientifique en elle-même, elle est de toute façon basée sur une évolution des connaissances.
Richard Anchou, pour convaincre certains patients de se faire vacciner, vous avez parfois utilisé d'arguments peu rationnels. Est-ce que vous-même, votre médecin, vous avez dû être psychologue par moment et vous avez été surpris?
Alors, en médecine praticienne de ville, c'est absolument essentiel. Et les arguments, j'essaye quand même d'être rationnel. Je ne mens jamais, je ne dis pas de contre-vérité. Sur l'irruption du débat dans la sphère publique, ça a été extrêmement nocif. Et on a eu l'habitude d'avoir le consensus une fois qu'il est établi.
Ah.
Donc, on n'assiste pas dans le public à l'élaboration. De même
que lorsque... Parce que là, ce virus était nouveau, donc les scientifiques tâtonnaient.
Oui, certains se sont permis d'afficher des opinions individuelles extrêmement tranchées qui n'étaient pas validées. Lorsque vous avez une pathologie lourde, un cancer, une maladie grave, vous avez une équipe de soignants qu'on appelle pluridisciplinaire ou pluriprofessionnel. Vous avez un virologue, vous avez un chirurgien, vous avez un médecin généraliste, vous avez un endocrinologue. Ils vont tous se réunir, ils vont s'extriper, ils vont se crêper le chignon, mais à la fin, ils vont décider, on fait tel traitement. Et quand on arrive chez le patient, on dit, notre consensus, c'est que dans votre pathologie, c'est ça qu'on doit faire. Le patient n'a pas assisté à la réunion où on s'est crêpé le chignon parce qu'il n'aurait pas supporté.
D'accord.
Et qu'il aurait eu l'impression qu'il y a plein d'hypothèses et qu'on n'a pas forcément choisi la bonne. Là, on n'a pas attendu d'avoir un consensus et on a vu toutes les opinions s'évoquer à l'air libre. C'est pas bon.
Alors, vous savez, ceux qui étaient très actifs sur les réseaux sociaux pour critiquer les scientifiques que vous êtes parfois, ils sont passés à autre chose. Et beaucoup maintenant, alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a un lien, une passerelle? Ils sont passés au soutien de la Russie de Vladimir Poutine. Vrai ou fake, a enquêté sur cette passerelle entre les antivax et les pro-Poutine, sujet de Luc Brisson.
Nous avons trouvé des défenseurs de Vladimir Poutine en France.
Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine.
Richard Boutry, figure de la lutte contre les vaccins anti-Covid, dispense désormais à ses abonnés un discours pro-Poutine pour évoquer le conflit Russie-Ukraine.
On peut être d'accord ou non avec Poutine, il faut reconnaître que c'est un vrai chef d'État qui connaît son pays, son histoire, sa culture.
Sylvain Otrota, chef d'entreprise très populaire chez les anti-vaccins, a dénoncé à de nombreuses reprises une soi-disant dictature sanitaire. Aujourd'hui, sur son compte Telegram, son nouvel ennemi, c'est le président ukrainien.
C'est ce malade que le monde occidental adule.
Et il s'emploie à légitimer l'intervention russe.
Si les médias avaient depuis 8 ans montré des images tous les jours de ce qu'il se passait au Donbass, les peuples seraient en train d'applaudir Poutine.
Des messages lus par plus de 150 000 personnes. Alors pourquoi une telle proximité entre les discours anti-vaccins et pro-Poutine? Déjà parce que dans les deux mouvements, l'extrême droite est très présente.
Il y a une vraie affinité quand même, très claire, documentée, statistique, entre le fait de partager des contenus litigieux, des fake news sur la vaccination, et l'affiliation partisane au sein de la droite radicale. Il y a un goût historique, disons, de la droite radicale pour la figure de Vladimir Poutine.
Autre argument, une pensée anti-système de la part des opposants aux politiques sanitaires actuelles qui amène à se tourner vers des régimes comme celui de Vladimir Poutine.
Ils sont déçus de la démocratie, donc ils sont dans une pensée anti-système, donc ils sont anti-vaccins, mais ils pensent aussi par ailleurs que Poutine va être le sauveur. En fait, la trame, c'est la pensée anti-système que les discours de pro-régime autoritaire ont su extrêmement bien exploiter ces dernières années.
Tous les militants anti-pass sanitaires ne sont pas des soutiens de l'invasion russe, loin de là, mais les experts décrivent tout de même des passerelles entre ces deux types d'engagement.
Caroline Tourbe, vous avez été surprise de la virulence d'ailleurs de ce mouvement contre la science, contre le vaccin, contre le pass sanitaire, qui continue de défiler d'ailleurs alors qu'il n'y avait plus de pass sanitaire, on avait des manifs.
Surprise de la virulence, en fait, les anti-vax, on les a toujours eu, on les a toujours connus. Hein. Ils étaient juste moins écoutés parce qu'ils étaient moins dans l'actualité. Donc la virulence des antivax, elle est la même. Ils ont une caisse de résonance pas possible et avec les réseaux sociaux, clairement. Et puis c'est aussi des gens qui sont très différents de ceux qui sont hésitants vaccinaux ou qui se posent des questions sur les vaccins. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est très important et c'est normal de se poser des questions sur les vaccins, et c'est normal de pouvoir y répondre et de pouvoir en discuter avec son médecin ou avec des scientifiques. Et là, on peut discuter avec les antivax, en fait, on ne peut pas discuter puisque eux ont, ont l'absolue conviction, la croyance que les vaccins sont dangereux et ne fonctionnent pas. On ne peut pas utiliser d'arguments rationnels avec eux puisqu'ils pensent avoir la vérité. Partant de là, on ne peut pas discuter avec eux. Et je pense que c'est aussi ce qui doit séduire chez les antivax pour soutenir Poutine, c'est que c'est une vérité dont on ne peut pas discuter. Poutine a raison, il a envahi l'Ukraine parce qu'il était agressé. Et voilà, donc à partir de là, on ne peut pas débattre.
Et voilà, on commence avec le Covid qu'on a vaincu et on termine avec la guerre en Ukraine. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'Info C'est Clair est disponible gratuitement, je le rappelle, sur toutes les bonnes plateformes. Il suffit de taper l'Info C'est Clair et hop, vous pouvez écouter l'émission en direct. Enfin, pas en direct, en enregistré. Bonne journée, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée sur France Info, à demain.